Thatcher, Reagan et ensuite en France à partir de 83.
En fait, ce qu'on voit, c'est que si on commence effectivement à peu près au 19e siècle, on voit que le libéralisme est clairement l'idéologie dominante, sauf période de crise ou de guerre. C'est-à-dire que ce qui a amené les progrès sociaux et politiques d'ailleurs, parce que le droit de vote des femmes est issu de la Seconde Guerre mondiale. Je ne sais pas si elle l'aurait encore aujourd'hui s'il n'y avait pas eu la Seconde Guerre mondiale ou combien de temps on aurait dû attendre. Et donc, bizarrement, effectivement, cette idée qui est tellement mortifère pour la société, je crois qu'elle a pour elle cette incroyable force de l'évidence. C'est-à-dire que je crois que le marché, finalement, nous parle. Parce que nous sommes, nous aussi, des acteurs du marché. C'est-à-dire que, voilà, on va aller sur Internet et on va chercher le truc le moins cher. On le fait tous. Et donc, l'offre, la demande, le prix, etc. Je crois que malheureusement, d'une façon ou d'une autre, c'est un côté universel et donc, et c'est le terme le pire, naturel. Le marché a quelque chose de naturel. Alors que, on le voit bien dans tous les débats actuels sur les retraites, le chômage, tout ça, ça paraît artificiel. C'est-à-dire, ah, la sécu, oui, mais c'est la bureaucratie. L'État, oui, mais pourquoi on me prend de l'argent, etc. Et là, la façon dont moi je vois les choses, c'est qu'il y a une lutte en fait qui se fait à l'intérieur de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a le consommateur en nous, et puis il y a aussi l'être humain. Et l'être humain, il est très content de pouvoir aller se faire soigner, il est content que ses enfants puissent se faire éduquer, il est content de pouvoir voyager, de vivre dans un pays sûr, il est content qu'il n'y ait pas de pauvreté, parce que ça ne nous est pas du tout indifférent de savoir que si on vit dans un pays avec beaucoup de pauvres ou pas, etc. Donc toutes ces choses-là sont évidemment beaucoup plus importantes pour nous. Mais bizarrement, lorsque le débat politique se structure, ce sont finalement les choses les plus futiles, toutes ces histoires de concurrence dont on n'a rien à cirer, qui n'ont aucune espèce d'importance. Enfin, personne ne se dit, tiens, aujourd'hui, où en est la concurrence, ou à la fin de sa vie, tiens, est-ce que j'ai vécu dans un pays où il y avait suffisamment de concurrence ? Enfin, aucune espèce d'intérêt. Mais malgré tout, ce côté quotidien et évident du marché l'emporte sur, finalement, nos constructions humaines, qui sont évidemment nos plus belles réussites.
Regardez ce crayon à mine. Il n'y a pas une seule personne dans le monde qui puisse fabriquer ce crayon.
Milton Friedman, 1979.
Le bois duquel il est fait. Pour couper cet arbre, il a fallu une scie. Pour faire la scie, il a fallu de l'acier. Pour faire l'acier, il a fallu du minerai de fer. La partie noire au centre, c'est ce qu'on appelle la mine. Je ne suis pas certain d'où elle provient, mais je pense qu'elle vient de mines d'Amérique du Sud. Le bout rouge ici, la gomme, probablement importée de Malaisie. Cet anneau de fer, je n'ai pas la moindre idée d'où il vient.
Yellow paint.
Ou la peinture jaune.
Literally thousands of people cooperated to make this pencil.
Il a fallu littéralement la coopération de milliers de personnes pour fabriquer ce crayon.
People who don't speak the same language.
Des gens qui ne parlent même pas la même langue,
religions.
Qui pratiquent différentes religions.
Who might hate one another if they ever met.
Qui pourraient même se détester si jamais elles se rencontraient.
What brought them together and induced them to cooperate to make this pencil?
Qu'est-ce qui les a amenés ensemble et les a incités à coopérer pour fabriquer ce crayon?
It was the magic of the price system.
C'était la magie du système des prix.
The impersonal operation of prices.
Le fonctionnement impersonnel des prix. Qui les a amenés ensemble, il les a fait coopérer pour fabriquer ce crayon que vous avez pu avoir pour une somme insignifiante. C'est pourquoi le fonctionnement du marché libre est essentiel. Non seulement pour promouvoir l'efficacité productive, mais davantage encore pour favoriser l'harmonie et la paix parmi les peuples du monde.
Il s'est passé un événement effectivement prodigieux, ça a été le basculement dans toutes les universités du monde de la pensée économique à la fin des années 1970. C'est-à-dire que malheureusement, le plus grand économiste du XXe siècle, c'est Milton Friedman. Et Milton Friedman, sur une espèce de malentendu, va être celui qui, dès les années 50, alors qu'il est très isolé à ce moment-là, parce que même aux États-Unis, l'université est keynésienne, très majoritairement, et que les dirigeants aussi sont keynésiens, Friedman va nous dire ça ne marche pas. On ne peut pas stimuler l'emploi, il faut laisser libéraliser le marché, etc. Et puis la crise pétrolière, qui en fait n'avait rien à voir avec les politiques keynésiennes, va créer tout un tas de problèmes. L'inflation qui va dépasser 20% en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni. Le chômage qui va exploser alors qu'il était inconnu jusque-là dans ces pays. Et les hommes politiques ne vont pas y arriver. Et Friedman va être très malin et il va faire basculer toute la profession très vite. En 1976, il reçoit le prix Nobel. Très très vite, juste 3 ans après le choc pétrolier. Et à partir de ce moment-là, tout le monde va suivre sa doctrine. Et sa doctrine va être d'ailleurs gravée dans le marbre, évidemment, des institutions européennes, dans la Banque Centrale Européenne.